En fait, demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Deux prières valent mieux qu'une. Que ferions-nous sans toi? Sans toi, Esprit Saint, qui veut nous donner la pensée du Père, qui veut éclairer le message qui nous a été transmis de génération en génération, de siècle en siècle maintenant. Que serions-nous sans toi, Esprit Saint? C'est bien la raison pour laquelle nous te demandons d'intervenir à chaque fois que nous ouvrons le message que tu lui adresses à tes enfants. Alors oui, merci. Merci que de ce que tu renouvelles chaque jour, chaque dimanche, à l'occasion des cultes dominicaux, Seigneur, cette parole. Merci de nous parler, de parler en profondeur. Tu n'as pas une parole superficielle. C'est une parole qui veut toucher les profondeurs de notre cœur. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui encore. Merci de ce que tu vas faire. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons lire un passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 18. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 18. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 18, 1 à 18. Après cela, c'est-à-dire après le passage de Paul à Athènes. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude, empereur, avait ordonné à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux, et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et ils travaillaient ensemble. Ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Ce n'est pas Quechua, hein, je ne pense pas. Ils avaient des entretiens dans la synagogue chaque sabbat et persuadaient des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de la Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Christ. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des blasphèmes ou alors des injures, il secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, et dès maintenant j'irai vers les païens. » Il partit de là et se rendit dans la maison d'un homme craignant Dieu, du nom de Titius Justus, maison qui était contiguë à la synagogue. Et pourtant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi, je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il demeura 1 an et 6 mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Alors que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme persuade les gens de rendre un culte à Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque délit, je vous écouterai patiemment, vous, Juifs, comme de raison. » Mais s'il s'agit de discussions sur les mots, sur des noms et sur votre propre loi, cela vous regarde, je ne veux pas moi-même en être juge. » Et il les renvoya du tribunal. Alors, tous prirent Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le battre devant le tribunal sans que Gallion s'en mette en peine. Paul demeura là encore assez longtemps. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Je ne vous ai pas lu le chapitre précédent parce que ça aurait fait une longue lecture, mais dans le chapitre 17, donc, Paul annonce l'évangile aux Juifs dans la synagogue d'Athènes, mais aussi à des philosophes et des esprits brillants qui se réunissaient régulièrement sur la place publique de cette ville. Paul avait bien conscience qu'il n'arrivait pas à Athènes en terrain conquis. Le verset 16 précise qu'il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il savait qu'il allait se heurter à des oppositions, mais cela ne l'a pas dissuadé d'annoncer l'Évangile. Dérangé par ce que Paul annonce, ses intellectuels athéniens décident de le faire comparaître à l'Aréopage pour l'interroger sur la nouvelle religion qu'il professe. Entre parenthèses, l'Aréopage, c'était un tribunal qui siégeait sur une des collines de Rome, d'Athènes. Lorsque Paul leur parle de la résurrection de Jésus, une partie de cette noble assemblée se moque de lui, tandis que l'autre partie dit « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Une autre façon de dire « Voilà, ça ne nous intéresse pas du tout ce que tu es en train de dire ». Et pourtant, le texte ajoute « Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. » Les événements que rapporte le texte que je vous ai lu ont lieu à Corinthe, donc, une ville qui comptait à l'époque 700 000 habitants et qui était réputée pour sa richesse, son luxe et ses mœurs légères. Nous allons voir que l'annonce de l'Évangile produit exactement la même division parmi ceux qui l'entendent, à savoir, beaucoup refusent et quelques-uns acceptent l'Évangile. Parce que Paul s'adresse aux Juifs dans la synagogue de Corinthe pour leur démontrer que Jésus était le Christ, le texte nous dit que la plupart, je cite, « s'opposaient à lui avec des blasphèmes ou des injures ». Alors les blasphèmes, c'est contre Jésus. Ils devaient blasphémer le nom de Jésus lorsque Paul leur parlait de Jésus. Ou des injures, alors des injures pour lui. Mais le verset 8 nous dit aussi « Pourtant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et il ajoute, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. » Ce n'était pas la première fois que Paul se faisait injurier ou était maltraité parce qu'il annonçait l'Évangile. À Antioche, à Iconium, à Lystre, où il fut lapidé et laissé pour mort, à Philippe, où Silas et lui furent roués de coups et jetés en prison, le même scénario se reproduit. Certains auditeurs s'opposent à Paul, avec souvent beaucoup de violence, verbale et physique, tandis que d'autres découvrent la vie avec Christ. J'en arrive maintenant aux versets 9 et 10 qui me semblent être au cœur de ce récit. Je vous le redis. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi, je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Les événements qui sont rapportés dans le chapitre 18 se situent vers la fin du second voyage missionnaire. Vous savez que Paul en a fait un troisième avant de revenir à Jérusalem où il a été arrêté. Paul était-il fatigué et découragé par tout ce qu'il avait enduré pendant les années où l'hostilité et les persécutions contre sa personne s'étaient succédées. La vision que Dieu accorde à Paul semble aller dans ce sens. Et si c'est bien le cas, on mesure l'attention bienveillante de Dieu envers son serviteur. Et ce n'est pas un cas isolé. On retrouve plusieurs fois cette attention bienveillante dans les récits bibliques. Souvenons-nous d'Élie, nourri par des corbeaux ou servi par un ange, lorsqu'il fuyait pour échapper à la vengeance de Jézabel. Pensons à Daniel, sorti vivant de la fosse aux lions. À Jonas, protégé de la noyade, et à beaucoup d'autres, Dieu a toujours accompagné et encouragé ceux qu'il envoie pour le servir. Que dit Dieu à Paul ? Il lui donne d'abord deux commandements. N'aie pas peur, puis parle et ne te tais pas. Ensuite, il lui fait une triple promesse. Je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, on voit que Dieu rassure d'abord son serviteur. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Après les injures et les blasphèmes auxquels il venait d'être confronté, Paul avait besoin d'entendre que Dieu connaissait les épreuves qu'il traversait. Nous savons tous qu'il est réconfortant de ne pas se sentir seul dans l'épreuve. Cela ne change pas l'épreuve, mais permet souvent de mieux la supporter. Souvenons-nous que Dieu connaît toutes les épreuves que nous traversons. Appuyons-nous sur cette certitude et soyons aussi attentifs à ne pas laisser seul quelqu'un qui traverse une épreuve. Alors, à propos de « Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal », si vous avez bien suivi le récit, je voudrais juste faire remarquer que Dieu n'a pas menti. En effet, les accusateurs ont bien traîné Paul au tribunal, mais le proconsul Gallion les a renvoyés avant que la colère se déchaîne contre lui. Paul n'a pas été maltraité physiquement. C'est ce pauvre Sosthène qui a subi la colère de la foule fanatisée. Arrêtons-nous un moment sur la troisième promesse. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Comprenons bien, cela ne veut pas dire qu'il y avait déjà beaucoup de chrétiens à Corinthe. En effet, n'oublions pas que c'est Paul qui a fondé l'Église dans cette ville. On voit ça dans de nombreux versets. Il faut comprendre cette affirmation « J'ai un peuple nombreux dans cette ville » comme ce que l'auteur des Actes a déjà écrit au chapitre 16. Qu'est-ce qu'il a écrit ? « Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crure. » Dieu connaît le cœur des hommes et connaît aussi ceux qui vont se tourner vers lui. C'est bien ainsi que Paul l'a compris. Et cela a dû être un encouragement extraordinaire pour lui de savoir que par sa parole, des païens de Corinthe allaient se tourner vers Christ, et c'est fort de cette promesse qu'il est resté une année et demie dans cette ville pour évangéliser les Corinthiens. Je voudrais souligner le lien étroit qu'il y a entre « parle et ne te tais pas » et « j'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Que se serait-il passé si Paul avait préféré développer sa start-up de fabrication de tentes avec Aquilas, avait voulu profiter du cadre exceptionnel de la ville de Corinthe en se promenant au bord de la mer Turquoise, aller au théâtre, puisqu'il y en avait beaucoup, et à ces moments perdus, et discrètement, pour ne pas faire de vagues, parler de Jésus. Réponse. Il y a peut-être plusieurs centaines de païens qui seraient restés païens. Je reconnais que cette supposition est stupide, car Dieu savait ce qu'il faisait en envoyant Paul. Si j'ai quand même fait la mention de cette supposition stupide, c'est pour souligner que Dieu avait besoin de Paul. Dieu comptait sur Paul pour que les païens et des juifs de Corinthe se tournent vers Christ. Cela m'amène à la dernière partie de ce message. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ce passage des Actes pour chacun de nous et pour notre communauté ? Comment ce texte nous parle-t-il à nous qui prions depuis 10 mois maintenant pour demander au Seigneur de nous préparer à nous engager dans une évangélisation permanente avec la venue de Denis, à qui le Seigneur a confié le ministère d'évangéliste? Comme Paul, nous savons que nous n'arriverons pas en terrain conquis lorsque nous nous organiserons pour parler de Jésus aux habitants de notre ville. Il faut s'attendre à des refus, à des oppositions, à des moqueries même. L'évangélisation n'a jamais été et ne sera jamais un long fleuve tranquille. Qu'on s'appelle Jérémie, Jésus, Paul, ou Billy Graham. L'évangélisation n'a jamais ressemblé à la croisière s'amuse. C'est plutôt un combat qui oppose des forces spirituelles antagonistes. Les forces des ténèbres haïssent le nom de Jésus et s'opposent violemment à la notion du sang de Jésus, de sa croix et de sa résurrection. C'est la raison pour laquelle la seule bonne volonté ne suffit pas pour évangéliser. La prière individuelle et communautaire, confiante et persévérante, l'écoute du Saint-Esprit, la consécration de chaque jour sont les armes qui nous permettront de triompher dans ce combat spirituel et de ne pas nous décourager, même si, comme Paul, les succès semblent moins nombreux que les échecs. Il est important de tirer un autre enseignement. Une des armes favorites de l'ennemi, c'est la peur. Il y a 36 façons d'avoir peur. Peur de l'échec, peur du ridicule, peur physique aussi. On rencontre des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas, mine patibulaire quelquefois. Peur de se faire insulter, peur de ne pas être à la hauteur, etc., etc. Chacun connaît la peur qui l'empêche de faire ce qu'il aurait envie de faire. Eh bien, je crois vraiment que même si nous n'avons pas eu la vision que Dieu a accordée à Paul, les paroles qu'il lui a adressées sont pour nous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui veulent sincèrement s'engager dans l'évangélisation permanente sont tous confrontés aux mêmes difficultés. Et Dieu qui désire plus que tout que tous les hommes soient sauvés, 1 Timothée 2:4, Dieu encourage toujours ceux qui veulent entrer dans cette mission. Frères et sœurs, vous avez pris conscience que l'Esprit vous parle de plus en plus fort et distinctement pour que vous vous engagiez concrètement dans cette œuvre d'évangélisation à laquelle Dieu nous appelle. Mais vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous avez peur de parler de Jésus, vous avez peur de l'échec, vous vous sentez trop âgé. Alors, relisez les versets 9 et 10. Apprenez-les par cœur, car c'est à vous, individuellement, et à nous tous, collectivement, que le Seigneur les adresse aujourd'hui et chaque fois que nous les prononcerons. Sois sans crainte. Je suis avec toi, je suis avec vous. Parle et ne te tais pas. Je suis avec toi. N'édulcorons pas la force de ces promesses de Dieu, sous prétexte que Dieu les a adressées à Paul il y a 2000 ans. Lorsque le Seigneur nous dit « Je suis avec toi », il l'est vraiment. Il nous accompagne. Il connaît la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il nous encourage, il nous rassure. Il y a quelques années, je m'étais inscrit à un stage de haute montagne. C'est la partie où je vous raconte ma vie. Après avoir appris les bases essentielles, la façon de s'encorder, la marche avec crampons, la descente en rappel, le guide nous a entraînés dans l'escalade d'un sommet enneigé de plus de 3000 mètres, avec des pentes vertigineuses et des crêtes aiguës donnant de chaque côté sur des à-pic de plusieurs centaines de mètres. Jamais, au grand jamais, je n'aurais osé m'aventurer seul sur un terrain aussi dangereux, vous pouvez me croire. Et pourtant, je n'avais pas peur. Vous savez pourquoi ? Il y avait un guide qui savait ce qu'il faisait. Et pourtant, ce n'était qu'un guide humain. Et nous, enfants de Dieu, nous avons le Créateur du ciel et de la terre pour guide. Et nous hésiterions encore à lui faire confiance? Chers frères et sœurs, avec Denis, nous allons parler de Christ. Et ne pas nous taire, car le Seigneur nous dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville de Thiers. » Avec notre regard limité, nous nous voyons souvent chez nos voisins proches ou lointains qu'indifférence ou rejet de la foi. Nous les voyons plus attachés aux biens matériels qu'à Christ, plus intéressés par la littérature profane que par la Bible, plus enclins à faire la grâce matinée qu'à venir au culte ou au groupe de prière. Oh, tout cela, c'est vrai. Mais ce que Dieu dit aussi est vrai. J'ai un peuple nombreux dans cette ville de Tiers. Nous voyons à l'apparence, mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Et il compte sur nous. Alors, allons-nous nous laisser démobiliser par ce que nos yeux voient? Ou bien allons-nous nous mobiliser par ce que Dieu dit et voit? Ô Seigneur, qu'il n'y ait pas d'hésitation dans la réponse que nous voulons te faire. Toi, tu vois clair, Seigneur. Et tu vois loin. Et tu nous as tout donné, tout, pour que nous puissions annoncer ta parole. Et elle portera du fruit, cette parole. Parce que c'est toi qui le veux, Seigneur. Alors rends-nous simplement obéissants, fidèles et confiants.